Il est 9 heures du matin et je viens d'entendre Alain Ray le magnifique, qui explique que si on nous perturbe l'antenne, ceux qui la perturbent le sont plus que nous, puisqu'il manque d'argent et de toutes sortes de choses. Je suis bouleversée par sa prestation et je remercie France Inter d'avoir reçu les intermittents, de ne pas avoir fait régner l'ordre, mais le calme dans la discussion. C'était Louise de Nice.
Bonjour Daniel, là c'est 9h du mat, donc c'est Rock à l'appareil. Et je viens d'écouter Paoli, et bon c'était bien, c'était génial. J'espère que les auditeurs ont entendu, surtout de 9h moins 10 à 9h. Merci, au revoir.
Ben moi je viens d'entendre que un commando de grévistes avait pris en otage un studio de France Inter. Mon Dieu, que devient grand mot. Ben moi je trouve que c'est un juste rééquilibrage des choses dans la mesure où la publicité dans cette même tranche d'information entre 7 et 9 heures nous prend, nous auditeurs, parfois en otage. Et je pense pas qu'il s'agit d'un commando publicitaire, mais plutôt d'une armée ou d'une division. À bientôt.
Oui, bonjour, Pierre de Seine-et-Marne. Je viens d'entendre sur votre antenne Jean-François Copé, qui est porte-parole du gouvernement et qui nous assurait que le gouvernement était à l'écoute des grévistes. Alors, faites-vous entendre.
Salut Daniel, c'est Roselyne. Alors, il paraît que les journalistes de France Inter ont été pris en otage par un commando du groupement Agir pour l'emploi. Est-ce qu'ils étaient armés? J'espère qu'il n'y a pas eu de blessés. À l'heure où France Inter, radio du service public, payée par nous tous, nous rebat les oreilles des derniers bons mots de M. Sarkozy ou de la dernière manipulation de M. Le Pen pour monopoliser les informations à leur profit, on aimerait un petit peu plus de mesures. Peut-être que ces gens auraient eu des choses intéressantes à dire, mais peut-être que France Inter les a invités à venir les dire dans une émission. À quand une tribune libre où les 10% de chômeurs du pays puissent venir s'exprimer? Ça serait bien qu'on les entende de temps en temps. Merci.
Vous écoutez FIP, il est 8h01.
C'était un mensonge parce que je suis sur France Inter et figure-toi, Daniel Mermet, les intermittents du spectacle ont encore frappé. C'est un scandale.
Oui, bonjour, c'est Daniel. Eh bien, ce matin, je revis un quart d'heure avec Stéphane Paoli, Alain Ray et deux intermittents, Francis et Sonia, je crois. C'était formidable. J'espère qu'il y aura d'autres fois comme celle-ci. Ça nous encourage. Au revoir.
Alors, merci à Stéphane Paoli, à l'équipe du 7-9 pour avoir donné la parole aux intermittents. Merci à Alain Ray pour son trouble au moment de parler de perturbation. Ce quart d'heure, c'est un moment fort qui m'a laissé en larmes. Bah oui, moi aussi, je suis chômeur, j'ai 55 ans, c'est pas de la tarte. Enfin bon, quelque chose s'est passé, bon, encadré bien sûr, et les journalistes ont eu raison de montrer qu'ils gardaient la maîtrise de leur émission. Alors vous êtes la seule radio encore écoutable, et bon, nous sommes tous en fin de droit, voilà ce que nous avons entendu ce matin. Ça doit être dit, redit, pour que nous soyons de plus en plus nombreux à nous réveiller ensemble. Nous sommes tous en fin de droit, tous autant que nous sommes, et nous avons à revendiquer le droit de haïr ceux qui, au nom du crédit qu'il faudrait leur faire, voudraient nous enlever à nous tout crédit. Il faudrait juste qu'ils se rendent compte que c'est leur propre crédit qu'ils sont en train de miner, ces parties de droit de chefs d'entreprise et autres irresponsables de la réalité sociale. Alors, au passage, je disais dans l'IB d'aujourd'hui, ou retrouvez sur le site de Libération le papier de Yann Kerninon sur Choron, merde à tout, et oui à la vie. Et merci à Daniel Mermet, en riant lui-même, de nous donner à rire de la prétention arrogante des puissants qui n'en peuvent plus d'avoir à communiquer pour dire leur impuissance verbeuse. Voilà.
Chaud. France Inter est vigilant les auditeurs. Il faudrait un commando tous les jours et une prise d'otage tous les matins. C'est formidable d'entendre tous les messages que vous avez laissés sur le répondeur de la base. J'y suis parce qu'au moment où l'antenne ferme et la musique, alors ça se met à gueuler sur le répondeur, ouais, ils ont fermé l'antenne, etc. Et puis quand Paoli revient, quand il y a ce dialogue qui s'installe avec les intermittents, alors là c'est bien, et puis avec Alain Ray qui ferme le 7-9, alors là c'est l'auditrice qui dit
Alain Rey le Magnifique. Ça, c'est très drôle. Il faudrait qu'on prenne un peu plus de temps, mais pour montrer tout l'enchaînement des messages que vous avez fait immédiatement au fur et à mesure de cet incident de ce matin dans le 7-9 d'Inter. Bravo à tous, hein, finalement. Les uns et les autres ont bien joué leur rôle. C'était un grand moment. Nous, je ne sais pas si ça va être un grand moment, en tous les cas, on continue notre balade au Venezuela, et aujourd'hui, on va aller voir la campagne, on va aller voir les paysans du Venezuela qui se battent comme des fous, qui se battent pour leurs droits, qui se battent pour leurs terres, qui se battent pour manger, et aussi, mais parce que tout n'est pas aussi grave et aussi lourd, on ira voir Miss Venezuela, enfin pas tout à fait Miss Venezuela, mais Miss Bolivar, ce qui n'est pas mal non plus, et puis on finira l'heure, si on a le temps, par une visite où je vais essayer de me rajeunir d'une bonne vingtaine d'années. Voilà, tout ça c'est dans un instant, après les messages que voici. Je rappelle le numéro du répondeur, 01 56 40 37 37.
Jeudi 20, grève à l'éducation nationale. Je suis enseignante, je ne travaille ni en zone d'éducation prioritaire, ni au lycée Henri IV, et j'en ai assez de ce système profondément injuste. Tous les élèves ont le droit d'acquérir des connaissances et de la réflexion. On voudrait que je dispense de la simplification à outrance, que je leur inculque des automatismes, je refuse. On nous fait de grands discours sur l'égalité des chances, la réussite pour tous, et ça vient de sortir, l'accès aux grandes écoles pour quelques élèves de milieux défavorisés. Un quota de pauvres chez les nantis. Quelle hypocrisie quand les élites de tous bords, politiques, économiques, médiatiques, prennent bien soin de scolariser leurs enfants dans les bons lycées de centre-ville ou dans des établissements privés, où ils se retrouvent entre gens de milieux cultivés, dans des conditions optimales grâce auxquelles ils peuvent aller bien au-delà des instructions officielles. Et puis intégrer les classes préparatoires prestigieuses et devenir à leur tour les élites. Mes élèves n'ont pas droit aux mêmes conditions, alors qu'ils ont autant d'intelligence et de mérite. Et c'est pour eux qu'après-demain, on me comptera parmi les grévistes de l'éducation nationale. Au revoir.
Alors sur le Venezuela en ce moment, ça m'intéresse tout particulièrement parce que j'y ai vécu 3 ans, de 1999 à 2002, que c'est un pays qui m'a frappée sous plusieurs aspects. D'abord parce que c'est un pays où j'ai remarqué que seuls les riches, qui constituent 15 à 20% de la population, manifestent. Je ne connais pas un autre pays au monde où il n'y a que les riches qui sont dans la rue. Normalement, ce sont les gens qui n'ont pas de moyens. Ça, c'est une première chose. Que Chavez n'est certes pas parfait, bon, mais qu'il tente de se donner les moyens d'améliorer les conditions de son pays. Que c'est un pays qui, à mon avis, a fait une erreur, c'est-à-dire de jouer sur le tout pétrole, et qu'ils ont très peu développé leurs autres richesses, qui sont effectivement très grandes, et que si les Vénézuéliens très pauvres ne se battent pas suffisamment, c'est qu'ils se sont investis, je dirais, dans ce qui est la fête, c'est-à-dire qui pour eux est une priorité, qui leur permet sans doute d'oublier la pauvreté dans laquelle ils sont. D'autre part, je vais faire vite, que Chavez n'ayant pas suffisamment investi dans la culture et l'éducation, ce sont des gens qui sont hélas souvent sous-cultivés entre guillemets et qu'il manque de repères éducatifs. Mais je sais, là où je travaille, qu'il y a un plan d'éducation mis en place, notamment le projet Columbus dans les barrios, qui a été d'ailleurs financé par la France, il faut le savoir. Donc voilà ce que je voulais dire, et que c'est un pays que j'aime énormément. Donc voilà. Et encore merci pour vos émissions. Au revoir.
Dilo de nuevo. La constitución es nuestra espada de los venezolanos.
Excelentísimos, muchísimas gracias y bienvenidos. Reciban como siempre mi saludo patriótico, bolivariano y revolucionario.
Hola.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao, avec Guy Van Til, ou à Venezuela.
Flight number 2.
República Bolivariana de Venezuela.
La base Juiz.
En l'honneur de Los Caídos, de ceux qui sont tombés victimes des sicaires latifondia, c'est-à-dire par les tueurs des propriétaires terriens. Et en dessous, il y a toute une liste, mais alors nombreuse, hein. Je ne sais pas combien, 30, 40 noms de paysans qui ont été tués. Et puis à gauche, il y a un magnifique portrait de Bolivar. Et à droite, un magnifique portrait de Prudencio Vázquez,
un militaire local qui a rejoint la guerre d'indépendance à la tête d'un détachement de 300 personnes dans cette région et qui, vivement, n'y est pas revenu vivant.
Et qui nous dit « Le peuple jamais ne se rendra ».
Voilà, littéralement, ils disent qu'aucun des 300 n'est revenu vivant sur cette terre et qu'il les a vus naître et qu'ils ont arrosé de leur sang et de leur héroïsme la route des peuples qui jamais ne se rendent. Il y a un trou dans la porte de l'église, il y a un impact de balle dans la porte de l'église.
Ah oui, on voit.
L'impact de balle fue de arma de guerre.
Et c'était tiré avec une arme de guerre et ça a été pendant le massacre de la coopérative de Jaracal.
C'était quand ça?
Eso fue el 5 de julio, hace dos años.
Il y a le 5 juillet 2002.
Injecter le communisme dans les veines du Venezuela. Voilà ce que veut faire Chavez. Voilà comment on parlait il y a encore peu au Venezuela dans cette confrontation, cette quasi-guerre civile qui a été évitée entre, eh bien, entre les riches et les pauvres dans ce pays. Aujourd'hui, on va s'intéresser, vous avez compris, à la terre, au partage des terres dans ce pays. Effectivement, plus de 120 leaders paysans du Venezuela ont été tués entre 1999 et ces derniers mois. Tués par qui? Par ces siqueros, c'est-à-dire, c'est quoi des siqueros? Eh bien, c'est des tueurs engagés par des grands propriétaires terriens. On retrouve les mêmes thèmes, les mêmes termes qu'on avait rencontrés au Brésil avec le mouvement des sans terres, même si au Venezuela, la question de la terre n'est pas aussi brûlante qu'au Brésil. Je rappelle que le Venezuela, gain du Venezuela, le premier revenu, l'économie essentiellement est absorbée par la question du pétrole et la terre et la paysannerie passent au deuxième plan. Il n'y a plus que 13 à 15% de la population du Venezuela qui est rurale. N'empêche que la répartition des terres est particulièrement injuste dans ce pays. À elle seule, 8 familles possèdent 150 millions d'hectares. Je répète, 8 familles se partagent 150 millions d'hectares et la plupart de ces terres sont en friche. C'est ce qu'on appelle des latifondia. Le pluriel de latifondium, c'est latifondia, c'est-à-dire ces grandes terres qui sont en friche. Et c'est contre ces latifondia que Chavez et son gouvernement sont partis en guerre déjà depuis quelques années pour tout simplement rendre la terre aux paysans, trouver une autre répartition des terres. Moins de 2% de propriétaires contrôlent 60% des terres cultivables et d'immenses surfaces demeurent incultivées. Donc il s'agit d'éviter l'exode rural, bien évidemment, aussi d'assurer la souveraineté alimentaire du Venezuela, puisque ce pays, avec toutes ses terres, je rappelle que c'est un pays qui est à peu près deux fois grand comme la France, importe 70% de son alimentation. Alors, le 13 novembre 2001, ça a été toute une quantité de décrets, lois, qui ont été promulgués par le gouvernement de Chavez, dont la fameuse loi
de la Terre. On l'appelle la loi de la Terre, qui a pour projet d'éliminer donc les latifondias, parce que, enfin, attention, tantôt on dit latifondio, latifondia, peu importe. Donc éliminer les latifondias, créer un impôt sur les terres improductives. Chavez et son ministre de l'Agriculture a bien précisé qu'il ne s'agit pas de nationaliser les terres, mais qu'on respecte la propriété privée à condition que les terres soient cultivées, et un refus de reconnaître le droit de propriété sur des terres illégalement occupées par de grands propriétaires depuis des décennies. En effet, les grands propriétaires ont eu tendance à, eh bien, occuper des terres appartenant à l'État. L'État ayant acquis des terres lors de luttes précédentes, parce qu'évidemment, ça date pas d'hier, cette histoire du partage de la terre en Amérique latine, c'est consubstantiel à cette histoire, c'est lié complètement à l'histoire de l'Amérique latine. En 1959, par exemple, avec une grande figure du monde paysan vénézuélien, Ezequiel Zamora, eh bien, il y a eu une lutte à laquelle tout le monde se réfère. Ezequiel Zamora était un grand héros contre l'oligarchie terrienne du Venezuela. Alors là, on a parlé d'Aracal, on a parlé de cette coopérative d'Aracal. C'est là où on arrive, à quelques kilomètres de Comunare de Roro, dans le Yaracuy. C'est un des états du Venezuela, à l'ouest du pays. Et qu'est-ce qu'on trouve là, dans une plaine assez quelconque, il faut bien dire, des plantations de canne à sucre. Et là, il y a un campement de paysans qui se sont organisés en coopérative, à qui des terres ont été attribuées et qui, depuis longtemps, sont en lutte. On arrive à un moment d'une concentration et d'une réunion de ces paysans.
Fire on unarmed peaceful protesters resulting in 10 killed and 100 wounded. 10 killed and 100 wounded. That is what took place in a transitional civilian government has been installed.
Los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió.
Aracal, c'est un petit village qui a été construit, qui est en cours de construction d'ailleurs, hein, de paysans qui occupent ces terres. Là, il y a un conseil avec un représentant du gouvernement. Alors, c'est une baraque de bois, de tôle et de morceaux de plastique. Mais on est vachement aligné, on est très attentif. Dans le fond, devant un morceau de tôle, il y a un portrait peint naïvement de Chavez.
Donc ici c'est une mission qui est là, donc je crois que c'est la mission Robinson. Donc l'idée c'est de donner un niveau d'instruction à personnes qui sont ici dans le camp. Donc il faut faire aussi travailler les terres, comme dit le président. Il faut arrêter de travailler les terres de façon empirique, comme c'était fait avant. Maintenant, il faut un peu de technique. Si on fait que semer pour semer, on va au fracas, à la catastrophe. Donc vous venez ici, la plupart d'entre vous, pour suivre un apprentissage. On propose un apprentissage technique.
unos 30 hectáreas, de los cuales se sembraron en 330 hectáreas de maíz, que es lo que se acaba en este momento.
Sur les 600 hectares que nous occupons, on a planté 300 hectares de maïs et on vient de finir la récolte. Et autour de nous, c'est les paysans qui occupent, donc, par de tous les âges.
Mais vous êtes toujours comme ça en train de discuter ou bien vous travaillez un peu de temps en temps?
Travaillo en el campo, vivo charlando, así como te veo acá.
Non, moi je fais tout, je travaille au champ, je discute, voilà, comme tu me vois maintenant.
Comment vous vous appelez?
Aïda, Aïda López.
Aïda López, elle est avec son petit cahier là, c'est sérieux, et puis c'est un beau t-shirt avec le Che. Et qu'est-ce que vous faites ici, Aïda?
Estoy en haciendo curso de agricultura.
Je suis la formation agricole en ce moment.
Et soy de la cooperativa también, Aracal.
Et je fais partie de la coopérative ici, Aracal.
D'accord. Et vous êtes une paysanne, vous?
Oui,
bien sûr.
De pour la cepa.
De toujours, depuis toujours.
De toujours. Et est-ce que vous avez des terres?
Non, propriedad no, porque no, no, nadie tenemos. La tierra que tenemos, la que estamos trabajando en cooperativa.
Non, non, j'ai pas de terre. Moi, la terre que je travaille, c'est celle qu'on a ici de façon coopérative.
Combien vous avez d'enfants?
7.
Qu'est-ce que vous espérez maintenant?
La ventaja de estar aquí es una ilusión, pues.
On vit un grand rêve là en ce moment.
Por lo menos tener algo de que vivir, algo como de que desempeñar, algo de que sacar a mi familia adelante. Lo que no tenemos antes.
Parce qu'en fait là on a enfin quelque chose et je peux imaginer sortir ma famille du besoin.
Espoir simple, hein, espoir très très simple, celle simplement d'avoir quelques arpents de terre pour vivre. La plupart de ces paysans, les gens qui sont autour de nous, sont très très pauvres, travaillant, offrant leurs bras aux grands propriétaires du coin, si toutefois les propriétaires exploitent ces terres. Mais très souvent, ben, c'est pas le cas, c'est des terres qui sont en friche, on l'appelle ça, donc des latifondios. Et Chavez, donc le président vénézuélien, veut rendre la terre aux paysans. Il a déclaré la guerre à ces latifondias et cette fois il passe à l'application du décret. C'est en route, il y a en début janvier, on est passé aux actes et on va délocaliser, et on va permettre à des paysans de s'installer et on va exproprier des grands propriétaires qui n'ont pas de titre de propriété, qui sont absolument illégaux. Mais c'est pas tout. Une fois la terre redonnée aux petits paysans, eh bien, il faut des équipements, il faut du financement, et puis il faut aussi apprendre, tout simplement, apprendre en général, on l'a vu avec l'alphabétisation, et puis apprendre à cultiver la terre.
Félix López. Yo soy el vice coordinador de la cooperativa Araca.
Félix López, je suis le vice coordinateur de la coopérative Araca.
Alors expliquez-nous l'histoire de cette coopérative.
Esta es una lucha que se ha planteado hace mucho más de 20 años. Ya los que empezaron esto ya prácticamente no existen, hay por ahí algunos recuerditos.
Ceux qui ont commencé cette lutte, cette grande bagarre, pour l'essentiel, ils sont presque plus là. Il y a 20 ans que ça dure.
Aquí hacían conuco la gente. O sea, se sembraban cultivos de pequeña extensión.
Ici, au départ, les gens ont commencé à semer de l'agriculture vivrière sur des petites surfaces.
Pero hacían conuco, hacían pequeñas extensiones, y entonces, como era una tierra de muy alta potencial, los señores con cierto poder económico los echaron.
Mais il se trouve que c'était une terre ici qui était très riche, qui avait beaucoup de potentialité, donc les grands propriétaires terriens d'à côté, on leur ont piqué la terre, sont venus et les ont virés.
Ça, ils avaient des terres, des petits lopins de terre, et les grands propriétaires leur ont pris. Donc ils étaient dans une situation illégale.
Ils siguen siendo ilegales, porque esa caña todavía es de ellos.
Oui, non, ils étaient illégaux et continuent à l'être parce que les champs qui sont à côté leur appartiennent, enfin, sont toujours exploités par eux, illégalement.
Au total, ils ont combien?
Nosotros luchamos 1640. Nous, et nosotros tenemos 590, quiere decir que le quedan a ellos un promedio de 1000 hectares.
Ouais, nous, on se bat pour avoir 1640 hectares et nous, on en a que 570. Donc, il y en a plus de 1000. Qu'ils exploitent encore.
Entonces, cambió el gobierno. O sea, luchamos también para cambiar el gobierno.
Et puis le gouvernement a changé. Et on s'est bien battu pour ça, nous aussi, d'ailleurs, pour que ça change.
Al cambiar el gobierno, pues entonces vamos a la constitución, al hacer la constitución que tenemos ahora.
En changeant ce gouvernement, on a pu mettre au point la constitution qui nous régit aujourd'hui.
Recogieron pues las inquietudes que nosotros teníamos como campesinos, así recogieron todas las inquietudes de la población.
Cette constitution, elle a intégré nos demandes et nos inquiétudes par rapport au contrôle de la terre et à la propriété de la terre.
Mais avant le Chavez, c'était déjà illégal.
Tiene muchos años, el año 46.
Ça fait, c'est illégal depuis 1946.
Et maintenant, vous voulez leur exploitation aussi, vous voulez la canne à sucre aussi.
Como son del Estado, ouais. Y es un mandato del Estado, y la soberanía de este país reside en el pueblo, pues nos pertenecen las tierras también.
Oui, c'est logique. Ces terres appartiennent à l'État. L'État, il les a au nom de la souveraineté populaire, et la souveraineté populaire, c'est nous qui l'exerçons. Donc, on doit récupérer cette terre.
Les paysans là qui sont autour de nous, qui nous écoutent, mais plus personne ne travaille pour ces propriétaires là.
Non. Nous sommes tellement implantés.
Non, on est au ennemi, on est face à face.
C'est la guerre. Alors, oui, mais
c'est idéologique.
C'est une guerre idéologique, mais
politique idéologique.
Politique idéologique.
Guerre idéologique, guerre politique, et puis des fois c'est une guerre tout court parce qu'il y a certains d'entre vous qui ont été tués. Il y a toujours aujourd'hui des affrontements.
Puede que haya muerto. Estamos peleando con el latifundio.
Il faut bien comprendre qu'on se bat contre les latifundistes, il peut encore y avoir des morts.
Los sicarios han matado más de 100 personas en este país en dos años de ley de tierra.
Depuis la promulgation de la loi de la terre, il y a deux ans, ils ont tué plus de 100 personnes, les sicarios. Dans ce pays, pas ici, dans l'ensemble du pays.
Et vous êtes combien concernés par cette coopérative?
Hay un promedio de 60.
60 à peu près, sur le campement.
Estamos preventivamente aquí, porque tenemos el planteamiento de desarrollo en toda la zona, y entonces estamos planteados, bueno, darle...
On occupe le terrain, on est là de manière préventive, on est là pour marquer notre présence, chacun sur le pain de terre, une petite construction modeste qu'on construit, pour bien marquer qu'on est là et qu'on ne partira pas.
Et qu'on partira pas. Mais vous connaissez les luttes des mouvements des sans terre du Brésil?
Hemos tenido conversaciones con alguna gente de Brasil que han venido por
ahí. Ah, y hay des gens du MST qui sont venus ici discuter avec nous.
Parce qu'il faut exactement la même chose.
A ellos les ha tocado mucho más duro.
Pour eux, ça a été beaucoup plus dur.
Ils ont tenu que enfrentar directamente.
Parce que nosotros
también lo hemos hecho, pero en pequeñas proporciones, en poquitas horas.
Alors nous aussi, mais dans des proportions infinitésimales par rapport à eux.
Y también que el movimiento allá campesino es mucho más fuerte que desde aquí, porque aquí tiene...
Le mouvement paysan au Brésil est quand même beaucoup plus fort qu'ici.
Entonces, el boom petrolero se llevó a los pobres que vivíamos por aquí en esta zona.
Et le boom pétrolier a aspiré tous les pauvres qui vivaient là, ils les amenaient en ville pour travailler pour le pétrole. Donc,
por eso usted ve el cordón ese de miseria que tienen las ciudades alrededor.
D'où le cordon de misère qu'il y a autour de toutes les grandes villes.
Toi, tu penses qu'il faudrait, contre ce cordon de misère autour de Caracas, par exemple, il faudrait que les gens reviennent à la terre?
El deber ser.
Ça, ce serait bien ça.
C'est envisagé?
Es la política del gobierno, es la vuelta al campo.
Ah, mais c'est la politique du gouvernement, le retour à la terre.
Pero entonces el campo ha estado tan desacreditado, las cooperativas que están tan desacreditadas en este país para desmontarla totalmente porque es la política del contrario.
Mais c'est vrai que le métier de paysan est très dévalorisé en ce pays et puis même les coopératives qui se sont engluées dans la gestion précédente sont assez mal vues, donc il faut réhabiliter tout ça si on veut que les gens puissent revenir.
On va vous envoyer José Bové.
No te entendí nada.
Ah, no, on va vous l'envoyer.
Tu le dis, el campesino francés.
Gracias.
T'as vu la contrebasse? Ça, c'est les contrebasses, c'est un bidon en plastique.
Les contrebassines, on appelle ça, ouais.
Les contrebassines, c'est vraiment
bassine. Une bassine en plastique, un manche en bambou et une corde qu'on tend pour raccorder. Une
maracas en noix de coco. Et il y a le chanteur, on attend le chanteur maintenant, parce qu'on est dans une petite cabane. Avec des murs en bambou et du torchis, quoi, c'est de la terre. Là, il y a un vieux bidon en métal rouillé qui sert de réchaud. On va prendre un petit bidon de gaz quand même où on fait cuire des galettes de maïs. Que ça s'appelle comment?
Les arepas.
Les arepas, c'est vraiment le plat populaire. Quelques tôles, là, il y a une tôle qui est un peu plus transparente, donc il y a un tout petit peu de lumière qui rentre. Et puis, il y a les lits en bambou, quoi, c'est des espèces de paillasses. C'est là où on dort, c'est un dortoir de paysans, c'est que des hommes, bien burinés d'un certain âge.
Non, une femme vient de rentrer.
Ah oui, avec son t-shirt Che Guevara.
A ver, maestro.
Pedir mujeres, tiene quien te la quite, mejor me separo yo. Ay, que va la despedida, grita por su querer, la perdición de los hombres, son la más de esta mujer.
¡Bravo, bravo!
Vamos a cantar el trigo, pues. Esas son canciones viejas, ¿no?
Esas son las vieilles, vieilles chansons.
Pero son buenas, ¿no?
Pero son bien, pourtant, ¿no?
¿Usted fue músico antes?
¿Nos cuenta? Sí. Sí, pero me metí en la agricultura, ¿no? De más o menos como de 30 años.
Ça fait 30 ans là, que j'ai arrêté la musique, c'est pour ça que je suis pas.
Sí, te van a perdonar porque no sé.
Ouais, bueno, je voulais que vous m'excusiez. C'était mon métier, mais là, ça fait longtemps que je joue plus, quoi.
Radio Barquisimeto.
Moi, je jouais ici à la radio là, de Barquisimeto.
Oui, mais non, había ayuda, non?
Il n'y avait pas d'aide, quoi, donc c'était difficile pour les musiciens de survivre.
Sí, sí.
Pero que había verbenas entonces.
Sí, había, pero así bailes particulares.
Oui, il y avait des balles, on animait des balles, mais sí. Particuliers, quoi, chez les gens, quoi.
Ah, para las bodas y matrimonios, cosas de
eso. Pour les mariages, par exemple. Hein.
Pero no ganaban nada.
No gagné rien,
quoi. Puro aguardiente.
C'était juste un coup à boire, quoi.
La aguardiente.
Sí, aguardiente.
Ouais. T'es payé en autre vie.
Vamos a darle, vamos a darle. Porque es la última que me queda, el resto que me queda.
Bueno, c'est la dernière que je connais, là, qui me reste. Les autres, je les ai oubliés.
Carmela que contaba 16 años. ¡Ah! Carmen de la pradera, Carmen la que contaba 16 años. Ay, qué linda eres, ay, qué linda eres, pero gana madera. Yo le digo la verdad, que ya iba el carnaval, no sé cuándo volverá. Yo le digo la verdad, que ya iba el carnaval, no cuándo volverá.
Juan Antonio Jiménez.
Juan Antonio Jiménez, 84 ans.
Gracias, cordial saludo a todos mis compañeros.
Bonjour a tous les camarades qui sont ici avec nous aujourd'hui.
Alors là, on est dans un cadre idéal. On est dans un cadre idéal. Devant nous, il y a une piscine, des palmiers, un grand ciel au-dessus de nous, des buildings. On est au cœur même de Caracas. On ne voit aucun... Quoi, rien de gênant. Peut-être c'est entre deux buildings, on aperçoit des bidonvilles, mais juste un tout petit peu. Et on a la plus belle femme du Bolivar, à côté de nous. Vidmaru, vous êtes Miss Bolivar.
Widmaru Calma, Miss Bolívar del Miss Venezuela 2004.
Donc moi je suis Widmaru, je suis Miss Bolívar pour Miss Venezuela 2004.
Alors voilà, oui, une belle fille, Widmaru, elle est superbe, mais c'est pas très rare au Venezuela. Le Venezuela s'est fait une réputation dans la fabrication, on peut dire un peu les choses comme ça, de Miss, voilà. On produit des Miss à la chaîne au Venezuela. Il y a des écoles où on fabrique des Miss, des créatures absolument parfaites, grâce évidemment à la chirurgie esthétique. On va essayer d'aller chez un grand chirurgien esthétique de Venezuela, de Caracas. Entraînement, culture générale, on va en avoir un échantillon pour cette gentille Widmaru, donc Miss Bolivar. Bolivar seulement, elle n'est pas comme Irene Saez. Irene Saez était Miss Univers, univers. Le Venezuela a eu 4 Miss Univers. Et Irene Saez était devenue une, non seulement une star, mais une personnalité politique de premier plan, 1m85. Irene Saez, elle était adulée par la partie quand même la plus aisée, la classe moyenne supérieure de Caracas. Et elle était très, très populaire. D'ailleurs, elle s'est présentée face à Chavez en 1998. C'était Chavez ou bien Irene Saez qui avait fabriqué des poupées à son effigie, des espèces de longues poupées Barbie comme ça, qui avaient beaucoup de succès, dit-on. Voilà, et elle se promenait dans une Irene mobile, et comme Irene, comme son prénom. Voilà. Ça a été Chavez. Beaucoup regrettent que ça n'ait pas été Irene, mais de moins en moins, puisque maintenant, ben voilà, ça y est, c'est lui, c'est le commandante qui conduit le pays, et nous, on est avec Winmaru au bord de cette piscine très chic avec Antoine.
Bueno, yo empecé para ser Miss en mi pueblo.
J'ai commencé dans mon village, donc.
Ah, hacen el casting oficial para el Miss Venezuela.
Donc, il y a eu un casting officiel pour Miss Venezuela.
Las muchachas cuando entran al Miss Venezuela pasan dos meses de preparación.
Donc, les jeunes femmes, quand elles s'inscrivent à Miss Venezuela, elles passent deux mois de préparation.
La mayoría de las muchachas llegan muy inocentes. No son muchachas que vienen ya con una cultura de ser, ay, sí, arreglarse, la más linda. No, son muchachas muy sencillas.
Donc, les filles, elles arrivent d'abord très sincères, elles ne sont pas forcément déjà trop coquettes. Et c'est dès qu'elles rentrent dans l'école, dans les petites classes de Miss Venezuela, que là, on leur apprend vraiment à se peigner, à faire très attention, à se maquiller, etc.
Il y a des écoles Miss Venezuela.
Tenemos clases de pasarela, clases de oratoria.
On a des classes de défilé de mode, on a des classes de diction.
Et clases de baile.
Des classes de danse.
Y bueno.
Alors, mais vous rêviez d'être Miss Bolívar depuis quel âge?
Bueno, te soy sincera, aquí en Venezuela, todas las mujeres, desde que son bébés, sueñan con ser Miss Venezuela.
Donc, je vais être sincère, ici, toutes les femmes, depuis qu'elles sont bébés, elles rêvent de devenir un jour Miss Venezuela.
Sí, las madres siempre te dicen, ay, tú vas a ser Miss Venezuela, tú vas a ser Miss Universo.
C'est les mamans qui disent aux petites, tu vois, tu seras Miss Venezuela et tu seras même Miss Universo.
Sí.
Parce que moi, j'avais pas compris. Quand on m'a dit Miss Bolivar, j'ai pensé que c'était Miss Bolivarienne, c'est-à-dire une Miss de la révolution bolivarienne.
Non. Bolívar est un estado.
Non, Bolivar, c'est un état.
Bolivar est un estado.
Mais tout le monde ne parle que de Bolivar. Et si moi, j'ai vu votre président, Chavez, il ne parle que de Bolivar. Vous êtes d'accord avec lui?
Il tiene buenas ideas. Pero al igual
il a
que
des bonnes idées.
Al igual que todo, es muy complicado para una sola persona tomar las riendas de un país tan grande y con tantos problemas.
Mais comme toujours, c'est pas facile que ce soit une seule personne qui s'occupe de tous les problèmes et qui tire toutes les ficelles d'un pays aussi compliqué que celui-ci et aussi grand.
Vous avez voté pour lui? C'est indiscret, mais c'est pour la France.
C'est indiscret, mais se dit en France nomás.
Non. Yo voté por Irene Saez.
J'ai voté pour Irene Saez.
Una mujer muy preparada fue Miss Venezuela y Miss Universo.
Donc c'est une femme très préparée qui a été Miss Venezuela et Miss Univers.
Las mujeres, siempre dándole el apoyo a las mujeres.
Qui a toujours aidé les femmes d'ailleurs.
Vous pensez que c'est féministe, l'élection de Miss Venezuela, ça a quelque chose de féministe, de libérateur pour les femmes?
Bueno, ciertamente los concursos de belleza casi siempre explotan en la parte física más que la intelectual.
Donc effectivement, dans beaucoup de concours de beauté, ils exploitent plutôt la partie physique que la partie intellectuelle.
Nosotros tenemos un país que una de las cosas más importantes es el Miss Venezuela.
Nous, dans ce pays, l'une des choses les plus importantes, c'est Miss Venezuela.
Yo no lo veo como una cosa mala, simplemente es como ya parte de nuestra cultura.
Moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Ça fait vraiment partie de notre culture.
Mais finalement, là, entre les buildings, là-bas, on voit des bidonvilles. Il y a beaucoup de pauvreté dans votre pays. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe?
La mayoría de las personas que en este caso se observan a los alrededores de Caracas son personas que no quieren estar en el interior del país.
La plupart des gens qu'on voit aux alentours de Caracas, dans les barrios, c'est des gens qui veulent pas être dans les provinces.
Piensan que aquí en la capital se va a encontrar el futuro, van a conseguir la fortuna y la buena vida que necesitan.
Ils pensent que c'est ici à Caracas qu'ils vont trouver la fortune et la vie qu'ils ont besoin.
Y no les importa vivir en esas situaciones.
Du coup, ça les dérange pas de vivre dans ces situations précaires.
Vous croyez que ça les dérange pas de vivre là?
a todos nos molesta y me imagino que ellos también deben sentirse muy molestos de estar así.
Oui, c'est ennuyeux pour tout le monde et pour eux aussi, j'imagine, bien sûr.
Voilà le Venezuela qui fabrique des Miss à la chaîne. On va la retrouver, Widmaru, parce qu'elle est, très sympa, elle est gentille comme tout. Elle est évidemment très très jolie. Et d'où ça vient? Comment est-ce qu'on devient aussi jolie que ça? Alors évidemment c'est naturel, mais il faut bien préciser maintenant, hein, au Venezuela, naturel ou bien, bah, si c'est pas entièrement naturel, c'est que vous êtes passé entre les mains de certains médecins qui font de la chirurgie esthétique, chirurgiens, par exemple le docteur Slobodianic. Slobodianic, c'est un médecin très connu, très recherché dans les beaux quartiers de Caracas. Eh bien, il arrive assez souvent que les Miss Bolivar ou Miss Venezuela et même Miss Univers soient passées avant nous.
Soy el doctor Daniel Slobodianic, cirujano plástico de Caracas, Venezuela.
Je suis le docteur Slobodianic à Caracas, ici au Venezuela.
Alors nous, on vient vous voir, on est très impressionnés par ce qu'il y a sur votre bureau là. Il y a trois formes de plastique, c'est tout mou, on dirait de la méduse, et c'est quoi?
Sí, estos son implantes mamarios.
Oui, ça ce sont des implants mammaires.
Gel de silicone.
C'est du gel de silicone.
Alors, en matière de chirurgie esthétique, vous êtes le chirurgien officiel des Miss au Venezuela. En quoi ça consiste? Ça veut dire que vous pouvez fabriquer une Miss? Je comprends pas, parce que moi j'imagine qu'une Miss est déjà une belle femme. Alors vous améliorez encore cette beauté.
Se hacen sugerencias.
Oui, moi je fais des propositions. Oui.
Y se habla con Osmel.
Donc on parle avec Osmel, le président de Miss Venezuela.
Y se discute, y se llega
on en discute et on trouve un accord, quoi.
Los cambios a las Misses son muy mínimos.
Les changements qu'on fait aux Misses sont vraiment minimes.
Que si tiene poquito seno, poner un poquito más. Que si la nariz tiene un
poquito de sein, ou enlever une petite bosse sur le nez.
Son cosas muy mínimas.
Voilà, c'est minime.
Se busca la belleza física y la belleza espiritual, vamos a decir.
Voilà,
así.
Non, ce qui compte, c'est la beauté naturelle de la femme et la beauté spirituelle,
y eso,
bien sûr.
Que... Osmel es quien se encarga de eso y es... Il faut sacar ce sombrero, ce señor.
Ouais, il faut tirer le chapeau à Osmel qui s'est vraiment déniché et trouvé la beauté chez les femmes.
Ah, comment il fait?
Bueno, él tiene tantos años, imagino, de experiencia que él tiene la capacidad de ver una muchacha.
Il a tant d'années d'expérience qu'il peut voir une femme
de sobrepeso,
qui peut avoir 20 kilos de trop.
Y decirle, rebaja 20 kilos, que el año que viene vas al Miss Venezuela.
Et il est capable de le voir et de lui dire, perds 20 kilos et l'année prochaine tu seras Miss Venezuela.
Yo tuve una paciente que rebajó 30 kilos y fue a Miss Venezuela.
Moi j'ai une cliente qui a perdu 30 kilos sur les conseils de Osmel et qui est devenue Miss Venezuela.
Combien de personnes vous opérez par an?
Wow. 500, 600.
500, 600.
Y no, y tengo amigos que operan mucho más.
J'ai des amis qui opèrent encore plus.
Et vous avez de plus en plus de demandes.
Sí, sí. Obviamente.
Oui, bien sûr.
Todos tienen deseo de operarse. Todas las clases. Todas. Aquí no hay distinción.
Donc là, il n'y a pas de distinction de classe. Toutes les femmes veulent accéder à la chirurgie esthétique. Le problème, c'est l'argent. C'est pas l'envie.
El mayor porcentaje es clase media alta, ¿no? Clase media trabajadora.
Le plus grand nombre, donc, c'est la clase moyenne haute.
Que tienen unos ingresos que pueden pagar este tipo de cirugía, ¿no?
Qui ont les moyens, quoi, de payer ce genre de cirugía.
El boom no solamente en las personas que se quieren operar. Hay un boom en los cirujanos más jóvenes que se quieren especializar. Y entonces, ahora casi... Una gran cantidad quieren ser cirujanos plásticos.
Donc le boom, il n'est pas que dans les gens qui veulent se faire opérer, mais aussi dans les médecins qui veulent obtenir la spécialisation de chirurgie esthétique. Et donc là, on a un boom aussi.
C'est une industrie au Venezuela.
Une industrie.
C'est une industrie.
C'est une industrie. Après le pétrole, la chirurgie esthétique.
Sí, es más bonita, es menos complicada.
C'est plus facile la chirurgie, c'est plus moins compliqué.
Qu'est-ce que les femmes vous demandent?
Quel est pour vos clientes le modèle idéal?
90-60-90. Bueno, no, la cirugía de senos.
La cirugía de seno.
La, la más solicitada.
C'est la plus demandée.
Quieren tener, no digamos grandes, pero bonitas.
Pas des gros ou grands, mais des firmes. Fermes.
Y una cintura pequeña.
Et bien sûr, une taille fine.
Esa es otra de las cirugías que después de las mamas es la más frecuente, que es la liposucción.
Et donc, ça, c'est la deuxième demande après les seins, c'est la liposucción.
Est-ce qu'il y a des hommes qui amènent leurs femmes?
Sí, mucho.
Oui, oui.
Mucho,
sí. Qui disent, regardez, elle n'est pas terrible.
Et des femmes qui ramènent leurs hommes.
Ah, il est trop gros, vous pourriez me l'arranger un petit peu.
Les molesta su cauchito, y entonces donc, vienen a quitarse eso.
Donc c'est souvent des hommes qui ont leur petite bouée, là, et ils se la font enlever, quoi.
Ça dure longtemps de se faire enlever une bouée?
Hora y media, dos horas.
Une heure et demie, deux heures, quoi.
Ahora te enseño una foto.
Maintenant, je vais vous montrer une photo.
Alors là, il y a des avant-après.
Este es el antes.
Alors lui.
Yo, por lo menos, a este paciente le saqué como unos 5 kilos.
A ce patient, je lui ai enlevé 5 kilos, quoi.
De graisse.
Liposuction.
Déjame mostrarte mes mamas.
Maintenant, on va voir des seins maintenant.
Alors voilà, des seins avant, des seins après. Mais alors, attendez.
Elle a rajouté 275 cm3 de volume de silicone en plus.
Sur cette jeune femme-là?
Ouais.
Mais elle était très jolie avant, c'était pas la peine. Hein.
Oh,
ça, c'est dommage, elle avait des beaux seins, regarde, des beaux seins.
Oula, c'est mouche. 280 cm3, là. 295 cm3. On va crescendo, là. 300 cm3. 325.
Oh là 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 là. Mais c'est énorme, c'est ça, là.
Sí, realmente, de todas las cirugías estéticas, esta realmente es la que más da satisfacción, tanto a la mujer...
Toutes les chirurgies esthétiques, celles qui donnent le plus de résultats et de plaisir, autant à la femme qu'au chirurgien.
Porque el cambio es inmediato.
C'est immédiat, quoi, le changement immédiat.
Y el cambio en la actitud de la mujer es increíble. O sea, la autoestima s'eleva...
Et le changement dans l'attitude de la femme, dans la satisfaction, est immédiat.
Maintenant, faut qu'on vous demande, parce que Daniel est un peu timide, mais il aimerait bien que vous fassiez une espèce de devis.
Oui, comment ça va me coûter de me rafraîchir?
Voilà. Caso perdido. Hein?
C'est trop tard.
Non, siempre hay cosas que se pueden hacer.
Non, toujours, on peut faire quelque chose.
Alors, à elle se le pudiera colocar Botox, acá.
Pour mettre du Botox, qu'est-ce que c'est?
Le Botox est toxine botulique.
La toxine botulique.
Ces pequeñas candidiae producen parálisis en el sitio donde se inyecta.
Donc on les injecte et ça crée des petites paralysies où elles sont injectées.
Et suavisa las líneas de expresión.
Okay? Donc ça efface même les rides, du front surtout.
Bon, d'accord.
Pour résumer, donc on a dit un petit tirage, un petit coup de Botox, un petit coup de ça nous fait combien, quoi, une enveloppe
un
budget.
Un precio global para Daniel, para que salga de aquí así presentable.
Mira, costaría con la cara como unos $6,000 y sin Botox.
$6,000 pour le visage, mais sans Botox.
Como unos 6,500.
6,500 avec le Botox.
Solamente con operarse los ojos.
Seulement,
se quita por lo menos 5 o 6 años.
Seulement avec les yeux, avec les valises, je t'enlève 5 ou 6 ans.
Bueno, uno, yo no puedo, de pronto tú me traes una revista y quieres decir, no, yo quiero la nariz de Brad Pitt y no te la puedo dar porque son tus facciones anatómicas. Yo no puedo modificar tu anatomía y igualarla a la de otro.
Pero no puedo hacer non plus si tú vienes con Brad Pitt y tú tienes un nez como una patata y tú veux le nez de Brad Pitt,
pero
yo puedo pas.
En cuestiones de mamas, de pronto, si la mujer quiere unas mamas grandes,
pero au niveau des seins, des gros seins, ça on peut faire, mais ça c'est facile.
Voilà, c'est fini comme ça pour aujourd'hui. Merci à tous, Technique, Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne, Antoine Chao, Yann Chouquet, Raphaël Mouter, des Pascal, le Pascal Yellow, c'est l'équipe de la Belle si j'y suis. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Dans quelques instants, au bout de 1 minute et 41 secondes, de réclame, vous retrouvez Charivari avec Frédéric Bonneau. Nous, on se retrouve demain 17h pour là-bas si j'y suis ou à Venezuela. C'est demain. Salut!